Le Capital, livre 1er, 3e section, chapitre grand 10, grand 3. La journée de travail dans les branches de l'industrie anglaise où l'exploitation n'est pas limitée par la loi. Jusqu'ici, nous n'avons étudié l'excès de travail que là où les exactions monstrueuses du capital, à peine surpassées par les cruautés des Espagnols contre les peaux rouges de l'Amérique. Note de bas de page. C'est un économiste bourgeois qui s'exprime ainsi, ouvrez les guillemets. La cupidité des maîtres de fabrique leur fait commettre dans la poursuite du gain des cruautés que les Espagnols, lors de la conquête de l'Amérique, ont à peine surpassées dans leur poursuite de l'or. Fermez les guillemets. John Wade, History of the Middle and Working Classes, 3e édite, London, 1835, page 114. La partie théorique de cet ouvrage, sorte d'esquisse de l'économie politique, contient pour son époque des choses originales, principalement sur les crises commerciales. La partie historique est trop souvent un impudent plagiat de l'ouvrage de Sir M. Eden, History of the Poor, London, 1799. Fin de la note de bas de page. Donc, jusqu'ici nous n'avons étudié l'excès de travail que là où les exactions monstrueuses du capital, à peine surpassées par les cruautés des Espagnols contre les peaux rouges de l'Amérique, l'ont fait enchaîner par la loi. Jetons maintenant un coup d'œil sur quelques branches d'industrie où l'exploitation de la force de travail est aujourd'hui sans entrave, ou l'était hier encore. Ouvrez les guillemets. Mr. Proton, magistrat de comté, déclarant, comme président d'un meeting le 14 janvier 1860, qu'il règne dans la partie de la population de la ville occupée à la fabrication des dentelles, un degré de misère et du dénuement inconnu au reste du monde civilisé. Trois petits points. Vers 2, 3 et 4 heures du matin, des enfants de 9 à 10 ans sont arrachés de leur lit malpropre et forcés à travailler pour leur simple subsistance jusqu'à 10, 11 et 12 heures de la nuit. La maigreur les réduit à l'état de squelette. Leur taille se rabougrit. Les traits de leur visage s'effacent et tout leur être se raidit dans une torpeur telle que l'aspect seul en donne le frisson. Trois petits points. Nous ne sommes pas étonnés que M. Mallet et d'autres fabricants se soient présentés pour protester contre toute espèce de discussion. Trois petits points. Le système, tel que l'a décrit le révérend M. Montagu Valpu, est un système d'esclavage sans limite, esclavage à tous les points de vue, social, physique, moral et intellectuel. Trois petits points. Que doit-on penser d'une ville qui organise un meeting public pour demander que le temps de travail quotidien pour les adultes soit réduite à 18 heures. Trois petits points. Nous déclamons contre les planteurs de la Virginie et de la Caroline. Leur marché d'esclaves nègres, avec toutes les horreurs des coups de fouet, leur trafic de chair humaine, sont-ils donc plus horribles que cette lente immolation d'hommes qui n'a lieu que dans le but de fabriquer des voiles et des cols de chemise pour le profit des capitalistes ? Fermez les guillemets. Note de bas de page. London Daily Telegraph du 14 janvier 1860. Fin de la note de bas de page. La poterie de Staffordshire a, pendant les 22 dernières années, donné lieu à 3 enquêtes parlementaires. Les résultats en sont contenus dans le rapport de Mr. Scriven, adressé en 1841 au, ouvrez les guillemets, Children's Employment Commissioners, fermez les guillemets, dans celui du Dr. Greenhow, publié en 1860 sur l'ordre du fonctionnaire médical du Privy Council, ouvrez la parenthèse, Public Health Search Report, Grand 1, 102, 113, fermez la parenthèse. Enfin, dans celui de Mr. Lange, adjoint au First Report of the Children's Employment Commission du 13 juin 1863. Il nous suffit pour notre but d'emprunter aux rapports de 1860 et 1863 quelques dépositions des enfants mêmes qui travaillaient dans la fabrique. D'après les enfants, on pourra juger des adultes, et surtout des femmes et des jeunes filles, dans une branche d'industrie à côté de laquelle, il faut l'avouer, les filatures de coton peuvent paraître des lieux admirablement sains et agréables. Note de bas de page. Voir Engels, Lag, etc., page 249, 51, fin de la note de bas de page. Wilhelm Wood, âgé de 9 ans, ouvrez les guillemets, avait 7 ans et 10 mois quand il commença à travailler, fermez les guillemets. Il, ouvrez les guillemets, ran malts, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, portait les pots dans le séchoir et rapportait ensuite le moule vide, fermez la parenthèse. C'est ce qu'il a toujours fait. Il vient chaque jour de la semaine vers 6 heures du matin et cesse de travailler environ vers 9 heures du soir. Ouvrez les guillemets. Ainsi, par exemple, pendant les 7 à 8 dernières semaines, fermez les guillemets. Voilà donc un enfant qui, dès l'âge de 7 ans, a travaillé 15 heures. Jay Murray, un enfant de 12 ans, s'exprime ainsi. Ouvrez les guillemets. I run malts and turn jager. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Je porte les moules et tourne la roue. Fermez la parenthèse. Je viens à 6 heures, quelquefois à 4 heures du matin. J'ai travaillé toute la nuit dernière jusqu'à ce matin, 8 heures. Je ne me suis pas couché depuis. 8 ou 9 autres garçons ont travaillé comme moi toute cette nuit. Je reçois chaque semaine 3 shillings 6 pence, ouvrez la parenthèse, 4 francs 40 centimes, fermez la parenthèse. Je ne reçois pas davantage quand je travaille toute la nuit. J'ai travaillé 2 nuits dans la dernière semaine. Fermez les guillemets. Ferry Hall, un enfant de 10 ans, ouvrez les guillemets. Je n'ai pas toujours une heure pour le dîner. Je n'ai qu'une demi-heure les jeudis, vendredis et samedis. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Children's Employment Commission, First Report, etc. 1863, Appendix, page 16, 17, 18. Fin de la note de bas de page. Le docteur Greenhow déclare que, dans les districts de Stoke-upon-Trent et de Wolstanton, où se trouvent les poteries, la vie est extraordinairement courte. Quoique il n'y ait d'occupés aux poteries dans le district de Stoke que 30,6% et dans celui de Wolstanton que 30,4% de la population mâle au-dessus de 20 ans, plus de la moitié des cas de mort causés par les maladies de poitrine se rencontrent parmi les potiers du premier district et environ les 2/5 parmi ceux du second. Le docteur Boothroyd, médecin à Hanley, affirme de son côté que, ouvrez les guillemets, chaque génération nouvelle des potiers est plus petite et plus faible que la précédente, fermez les guillemets. De même, un autre médecin, Mr. McBean, ouvrez les guillemets. Depuis 25 ans que j'exerce ma profession parmi les potiers, la dégénérescence de cette classe s'est manifestée d'une manière frappante par la diminution de la taille et du poids du corps. Fermez les guillemets. Ces dépositions sont empruntées au rapport du docteur Greenhow en 1860. Note de bas de page. Public Health Search Report, etc. Page 102, 104, 105. Fin de la note de bas de page. Extrait du rapport des commissaires, publié en 1863. Le docteur J.T. Ordledge, médecin en chef de la maison de santé du North Staffordshire, dit dans sa déposition, ouvrez les guillemets, « Comme classe, les potiers, hommes et femmes, trois petits points, représentent une population dégénérée, au moral et au physique. Ils sont en général de taille rabougrie, mal faits et déformés de la poitrine. Ils vieillissent vite et vivent peu de temps. Phlegmatiques et anémiques, ils trahissent la faiblesse de leur constitution par des attaques opiniâtres de dyspepsie, des dérangements du foie et des reins et des rhumatismes. Ils sont avant tout sujets aux maladies de poitrine, pneumonie, phtisie, bronchite et asthme. La scrofulose, qui attaque les glandes, les os et d'autres parties du corps, est la maladie de plus des deux tiers des potiers. Si la dégénérescence de la population de ce district n'est pas beaucoup plus grande, elle le doit exclusivement à son recrutement dans les campagnes avoisinantes et à son croisement par des mariages avec des races plus saines. Trois petits points. Fermez les guillemets. Mr. Charles Pearson, chirurgien du même hospice, écrit entre autres dans une lettre adressée au commissaire Lange, ouvrez les guillemets. Je ne puis parler que d'après mes observations personnelles et non d'après la statistique. Mais je certifie que j'ai été souvent, on ne peut plus, révolté à la vue de ces pauvres enfants dont la santé est sacrifiée pour satisfaire par un travail excessif la cupidité de leurs parents et de ceux qui les emploient. Fermez les guillemets. Il énumère les causes de maladie des potiers et clôt sa liste par la principale. Ouvrez les guillemets. The long hours. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Les longues heures de travail. Fermez la parenthèse. La commission, dans son rapport, exprime l'espoir, ouvrez les guillemets, qu'une industrie qui a une si haute position aux yeux du monde ne supportera pas plus longtemps l'opprobre de voir ses brillants résultats accompagnés de la dégénérescence physique, des innombrables souffrances corporelles et de la mort précoce de la population ouvrière par le travail et l'habileté de laquelle ils ont été obtenus. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Children's Employment Commission, 1863, page 22 et 11 en chiffres romains. Fin de la note de bas de page. Ce qui est vrai des fabriques de poterie d'Angleterre l'est également de celles d'Écosse. Note de bas de page. L'Occite, page 47 en chiffres romains. Fin de la note de bas de page. La fabrication des allumettes chimiques date de 1833, époque où l'on a trouvé le moyen de fixer le phosphore sur le bois. Depuis 1845, elle s'est rapidement développée en Angleterre, où, des quartiers les plus populeux de Londres, elle s'est ensuite répandue à Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle, Glasgow, accompagné partout de cette maladie des mâchoires qu'un médecin de Vienne déclarait déjà en 1845 être spéciale aux faiseurs d'allumettes chimiques. La moitié des travailleurs sont des enfants au-dessous de 13 ans et des adolescents au-dessous de 18. Cette industrie est tellement insalubre et répugnante, et par cela même tellement décriée, qu'il n'y a que la partie la plus misérable de la classe ouvrière qui lui fournisse des enfants, ouvrez les guillemets, des enfants déguenillés, à moitié morts de faim et corrompus, fermez les guillemets. Note de bas de page. L'Occite, page 54 en chiffres romains, Fin de la note de bas de page. Parmi les témoins que le commissaire White entendit, 1863 entre parenthèses, il y en avait 270 au-dessous de 18 ans, 40 au-dessous de 10, 12 de 8 ans et 5 de 6 ans seulement. La journée de travail varie entre 12, 14 et 15 heures. On travaille la nuit. Les repas irréguliers se prennent la plupart du temps dans le local de la fabrique empoisonné par le phosphore. Dans la fabrique de tapisserie, les genres les plus grossiers de tenture sont imprimés avec des machines, les plus fines avec la main. Ouvrez la parenthèse. Block printing, fermez la parenthèse. La saison la plus active commence en octobre et finit en avril. Pendant cette période, le travail dure fréquemment et presque sans interruption, de 6 heures du matin à 10 heures du soir, et se prolonge même dans la nuit. Écoutons quelques déposants. Jay Leach, ouvrez les guillemets. L'hiver dernier, 1862 entre parenthèses, sur 19 jeunes filles, 6 ne parurent plus, par suite de maladies causées par l'excès de travail. Pour tenir les autres éveillées, je suis obligée de les secouer. Fermez les guillemets. W. Duffy. Ouvrez les guillemets. Les enfants sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent tenir les yeux ouverts. Et en réalité, souvent, nous-mêmes, nous ne le pouvons pas davantage. Fermez les guillemets. J. Lightbourne. Ouvrez les guillemets. Je suis âgée de 13 ans. Trois petits points. Nous avons travaillé l'hiver dernier jusqu'à 9 heures du soir et l'hiver précédent jusqu'à 10 heures. Presque tous les soirs, cet hiver, mes pieds étaient tellement blessés que j'en pleurais de douleur. Fermez les guillemets. G. Abstain. Ouvrez les guillemets. Mon petit garçon que voici, j'avais coutume de le porter sur mon dos lorsqu'il avait 7 ans, aller et retour de la fabrique à cause de la neige, et il travaillait ordinairement 16 heures. Trois petits points. Bien souvent, je me suis agenouillée pour le faire manger pendant qu'il était à la machine, parce qu'il ne devait ni l'abandonner, ni interrompre son travail. Fermez les guillemets. Smith, l'associé gérant d'une fabrique de Manchester. Ouvrez les guillemets. Nous, ouvrez la parenthèse, il veut dire ses bras entre guillemets. Note de bas de page. Dans la langue distinguée des fabricants anglais, les ouvriers sont appelés hands entre guillemets, littéralement mains entre guillemets. Quand ce mot se trouve dans nos citations anglaises, nous le traduisons toujours par bras entre guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, ouvrez les guillemets, nous, ouvrez la parenthèse, il veut dire ses bras entre guillemets qui travaillent pour nous entre guillemets, fermez la parenthèse. Travaillons sans suspension de travail pour les repas, de sorte que la journée habituelle de 10h30 est terminée vers 4h30 de l'après-midi, et tout le reste étant de travail en plus. Note de bas de page. Ceci ne doit pas être pris dans le sens que nous avons donné au temps de surtravail. Ces messieurs considèrent les 10h30 de travail comme constituant la journée normale, laquelle renferme aussi le surtravail normal. Alors commence ce « temps de travail en plus » entre guillemets, qui est payé un peu plus cher. Mais on verra plus tard que, par contre, l'emploi de la force de travail pendant la prétendue journée normale est payé au-dessous de sa valeur. Fin de la note de bas de page. Donc, ouvrez les guillemets. Nous, ouvrez la parenthèse, il veut dire ses bras, entre guillemets, qui travaillent pour nous, entre guillemets, fermez la parenthèse. Travaillons sans suspension de travail pour les repas, de sorte que la journée habituelle de 10h30 est terminée vers 4h30 de l'après-midi, et tout le reste est temps de travail en plus. Ouvrez la parenthèse, on se demande si ce Mr. Smith ne prend réellement aucun repas pendant 10h30. Fermez la parenthèse. Nous, ouvrez la parenthèse, le laborieux Smith, fermez la parenthèse, finissons rarement avant 6h du soir, ouvrez la parenthèse, de consommer, ouvrez les guillemets, nos machines humaines, fermez les guillemets, veut-il dire, fermez la parenthèse, de sorte que nous, ouvrez la parenthèse, iterum crispinus, fermez la parenthèse, travaillons en réalité toute l'année avec un excédent de travail. Trois petits points. Les enfants et les adultes, ouvrez la parenthèse, 152 enfants et adolescents au-dessous de 18 ans et 140 au-dessus, fermez la parenthèse, ont travaillé régulièrement et en moyenne pendant les derniers 18 mois pour le moins 7 jours et 5 heures, ou 78h30 par semaine. Pour les 6 semaines finissant au 2 mai de cette année, 1863 entre parenthèses, la moyenne était plus élevée. 8 jours ou 84 heures par semaine. Mais, ajoute le sudit Smith avec un ricanement de satisfaction, ouvrez les guillemets, le travail à la machine n'est pas pénible, fermez les guillemets. Il est vrai que les fabricants qui emploient le block printing disent de leur côté, ouvrez les guillemets. Le travail manuel est plus sain que le travail à la machine, fermez les guillemets. En somme, messieurs les fabricants se prononcent énergiquement contre toute proposition tendant à arrêter les machines, même pendant l'heure des repas. Ouvrez les guillemets. Une loi, dit Mr. Otley, directeur d'une fabrique de tapisserie à Borough, une loi qui nous accorderait des heures de travail de 6h du matin à 9h du soir, serait fort de notre goût. Mais les heures du Factory Act de 6h du matin à 6h du soir ne nous vont point. Trois petits points. Nous arrêtons notre machine pendant le dîner. Ouvrez la parenthèse. Quelle générosité. Fermez la parenthèse. Pour ce qui est de la perte en papier et en couleur occasionnée par cet arrêt, il ne vaut pas la peine d'en parler. Ouvrez les guillemets. Tel quel, cependant, observe-t-il d'un air bonhomme, je comprends qu'elle ne soit pas du goût de tout le monde. Fermez les guillemets. Le rapport exprime naïvement l'opinion que la crainte de faire perdre quelques profits en diminuant quelque peu le temps de travail d'autrui n'est pas une raison suffisante entre guillemets pour priver de leur dîner pendant 12 à 16 heures des enfants au-dessous de 13 ans et des adolescents au-dessous de 18, ou pour le leur servir comme on sert à la machine à vapeur du charbon et de l'eau, à la roue de l'huile, etc. En un mot, comme on fournit la matière auxiliaire à l'instrument de travail dans le cours de la production. Note de bas de page, Loxite, Appendix, pages 123, 124, 125, 140 et 54 en chiffres romains. Fin de la note de bas de page. Abstraction faite de la fabrication du pain à la mécanique, encore toute récente, il n'y a pas d'industrie en Angleterre qui ait conservé un mode de production aussi suranné que la boulangerie, comme le prouverait plus d'un passage chez les poètes de l'Empire romain. Mais le capital, nous en avons fait la remarque, s'inquiète fort peu du caractère technique du genre de travail dont il s'empare. Il le prend tout d'abord tel qu'il le trouve. L'incroyable falsification du pain, principalement à Londres, fut mise en lumière pour la première fois, ouvrez la parenthèse, 1855-56, fermez la parenthèse, par le comité de la Chambre des communes, ouvrez les guillemets, sur la falsification des subsistances, fermez les guillemets, et dans l'écrit du docteur Hassall, ouvrez les guillemets, Adulterations detected, fermez les guillemets. Note de bas de page. L'alun, réduit en poudre fine ou mêlé avec du sel, est un article ordinaire de commerce qui porte le nom significatif de Baker Stuff, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, matière de boulanger, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, l'incroyable falsification du pain, principalement à Londres, fut mise en lumière pour la première fois, 1855-56 entre parenthèses, par le comité de la Chambre des communes, ouvrez les guillemets, sur la falsification des subsistances, fermez les guillemets, et dans l'écrit du docteur Hassall, ouvrez les guillemets, Adulterations detected, fermez les guillemets. Ces révélations eurent pour conséquence la loi du 6 août 1860, ouvrez les guillemets, For preventing the adulteration of articles of food and drink, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, pour empêcher l'adultération des aliments et des boissons, fermez la parenthèse. Loi qui resta sans effet, attendu qu'elle est pleine de délicatesse pour tout libre-échangiste qui, par l'achat et la vente de marchandises falsifiées, se propose de ramasser un honnête magot, ouvrez les guillemets, to turn an honest penny, fermez les guillemets. Note de bas de page. Chacun sait que la suie est une forme très pure du carbone et constitue un engrais que des ramoneurs capitalistes vendent aux fermiers anglais. Or, il y eut un procès en 1862 dans lequel le jury anglais avait à décider si de la suie à laquelle se trouve mêlée, à l'insu de l'acheteur, 90% de poussière et de sable est de la suie réelle, entre guillemets, dans le sens commercial, entre guillemets, ou de la suie falsifiée, entre guillemets, dans le sens légal, entre guillemets. Les jurés, amis du commerce, entre guillemets, décidèrent que c'était de la suie réelle, entre guillemets, du commerce, et déboutèrent le fermier de sa plainte en lui faisant payer par-dessus le marché tous les frais du procès. Fin de la note de bas de page. Donc, ces révélations eurent pour conséquence la loi du 6 août 1860, ouvrez les guillemets, For preventing the adulteration of articles of food and drink, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, pour empêcher l'adultération des aliments et des boissons, fermez la parenthèse, loi qui resta sans effet, attendu qu'elle est pleine de délicatesse pour tout libre-échangiste qui, par l'achat et la vente de marchandises falsifiées, se propose de ramasser un honnête magot, ouvrez les guillemets, to turn an honest penny, fermez les guillemets. Le comité lui-même formula plus ou moins naïvement sa conviction que commerce libre veut dire essentiellement commerce avec des matières falsifiées ou, selon la spirituelle expression des Anglais, ouvrez les guillemets, sophistiqué, fermez les guillemets. Et en réalité, ce genre de sophistique s'entend mieux que Protagoras à rendre le blanc noir et le noir blanc, et mieux que les Éléates à démontrer ad oculos que tout n'est qu'apparence. Note de bas de page. Dans un traité sur les falsifications des marchandises, le chimiste français Chevalier passe en revue 600 et quelques articles et compte, pour beaucoup d'entre eux, 10, 20, 30 méthodes de falsification. Il ajoute qu'il ne connaît pas toutes les méthodes et ne mentionne pas toutes celles qu'il connaît. Il indique 6 espèces de falsification pour le sucre, 9 pour l'huile d'olive 10 pour le beurre, 12 pour le sel, 19 pour le lait, 20 pour le pain, 23 pour l'eau de vie, 24 pour la farine, 28 pour le chocolat, 30 pour le vin, 32 pour le café, etc. Même le bon Dieu n'est pas épargné, comme le prouve l'ouvrage de M. Renard de Carre, ouvrez les guillemets, de la falsification des substances sacramentelles, Paris, 1856, fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, et en réalité, ce genre de sophistique s'entend mieux que Protagoras à rendre le blanc noir et le noir blanc, et mieux que les Éléates à démontrer ad oculos que tout n'est qu'apparence. Dans tous les cas, le comité avait appelé l'attention du public sur le pain quotidien entre guillemets et en même temps sur la boulangerie. Sur ces entrefaites, les clameurs des garçons boulangers de Londres à propos de leur travail excessif se firent entendre, à la fois dans des meetings et dans des pétitions adressées au Parlement. Ces clameurs devinrent si pressantes que Mr. H.S. Trimenhere, déjà membre de la commission de 1863, mentionné plus haut, fut nommé commissaire royal pour faire une enquête à ce sujet. Son rapport, note de bas de page, report, etc., relating to the grievances complained of by the journeyman bakers, etc., London, 1862, et Second Report, etc., London, 1863. Fin de la note de bas de page. Donc son rapport et les dépositions qu'il contient émurent non le cœur du public, mais son estomac. L'anglais, toujours à califourchon sur la Bible, savait bien que l'homme est destiné à manger son pain à la sueur de son front, si la grâce n'a pas daigné faire de lui un capitaliste, un propriétaire foncier ou un budgétivore. Mais il ignorait qu'il fut condamné à manger chaque jour dans son pain, ouvrez les guillemets, une certaine quantité de sueur humaine délayée avec des toiles d'araignées, des cadavres de cancrelats, de la levure pourrie et des évacuations d'ulcères purulents, sans parler de l'alun, du sable et d'autres ingrédients minéraux tout aussi agréables. Fermez les guillemets. Sans égard pour sa sainteté, le libre commerce entre guillemets, la libre entre guillemets boulangerie, fut soumise à la surveillance d'inspecteurs nommés par l'État. Ouvrez la parenthèse. Fin de la session parlementaire de 1863. Fermez la parenthèse. Et le travail de 9h du soir à 5h du matin fut interdit par le même acte du Parlement pour les garçons boulangers au-dessous de 18 ans. La dernière clause contient des volumes sur l'abus qui se fait des forces du travailleur dans cet honnête et patriarcal métier. Ouvrez les guillemets. Le travail d'un ouvrier boulanger de Londres commence régulièrement vers 11h du soir. Il fait d'abord le levain, opération pénible qui dure de une demi-heure à trois quarts d'heure, suivant la masse et la finesse de la pâte. Il se couche ensuite sur la planche qui couvre le pétrin et dort environ 2 heures avec un sac de farine sous la tête et un autre sac vide sur le corps. Ensuite, commence un travail rapide et ininterrompu de 4 heures pendant lesquelles il s'agit de pétrir, peser la pâte, lui donner une forme, la mettre au four, l'en retirer, etc. La température d'une boulangerie est ordinairement de 75 à 90 degrés. Elle est même plus élevée quand le local est petit. Les diverses opérations qui constituent la fabrication du pain une fois terminée, on procède à sa distribution, et une grande partie des ouvriers après leur dur travail de nuit, portent le pain pendant le jour dans des corbeilles, de maison en maison, ou le traînent sur des charrettes, ce qui ne les empêche pas de travailler de temps à autre dans la boulangerie. Suivant la saison de l'année et l'importance de la fabrication, le travail finit entre 1 et 4 heures de l'après-midi, tandis qu'une autre partie des ouvriers est encore occupée à l'intérieur jusque vers minuit. Fermez les guillemets. Note de bas de page. First Report, Logsheet, page 40 en chiffres romains. Fin de la note de bas de page. Pendant la saison à Londres, les ouvriers des boulangers, full priced entre guillemets, ouvrez la parenthèse, ceux qui vendent le pain au prix normal, fermez les guillemets, travaillent de 11h du soir à 8h du lendemain matin, presque sans interruption. On les emploie ensuite à porter le pain jusqu'à 4, 5, 6, même 7h, ou quelquefois à faire du biscuit dans la boulangerie. Leur ouvrage terminé, il leur est permis de dormir à peu près 6 heures. Souvent même, ils ne dorment que 5 ou 4 heures. Le vendredi, le travail commence toujours plus tôt, ordinairement à 10 heures du soir, et dure sans aucun répit, qu'il s'agisse de préparer le pain ou de le porter, jusqu'au lendemain soir 8 heures, et le plus souvent, jusqu'à 4 ou 5 heures de la nuit qui précède le dimanche. Dans les boulangeries de premier ordre, où le pain se vend au prix normal entre guillemets, il y a même le dimanche 4 ou 5 heures de travail préparatoire pour le lendemain. Les ouvriers des underselling masters entre guillemets, ouvrez la parenthèse, boulangers qui vendent le pain au-dessous du prix normal, fermez les guillemets. Et ces derniers composent, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, plus des trois quarts des boulangers de Londres, sont soumis à des heures de travail encore plus longues. Mais leur travail s'exécute presque tout entier dans la boulangerie, parce que leur patron, à part quelques livraisons faites à des marchands en détail, ne vendent que dans leur propre boutique. Vers la fin de la semaine, entre guillemets, c'est-à-dire le jeudi, le travail commence chez eux à 10 heures de la nuit et se prolonge jusqu'au milieu et plus de la nuit du dimanche. Note de bas de page. Logsheet, page 71 en chiffres romains. Fin de la note de bas de page. En ce qui concerne les underselling masters, entre guillemets, le patron lui-même va jusqu'à reconnaître que c'est, ouvrez les guillemets, le travail non payé, fermez les guillemets, des ouvriers, ouvrez la parenthèse, the unpaid labor of the men, fermez la parenthèse, qui permet leur concurrence. Note de bas de page, George Reed, The History of Baking. London, 1848, page 16, fin de la note de bas de page. Et le boulanger full price, entre guillemets, dénonçait underselling, entre guillemets, concurrent, à la commission d'enquête, comme des voleurs de travail d'autrui et des falsificateurs, ouvrez les guillemets. Ils ne réussissent, s'écrit-il, que parce qu'ils trompent le public et qu'ils tirent de leurs ouvriers 18 heures de travail pour un salaire de 12. Fermez les guillemets. Note de bas de page. First report, etc. Evidence. Déposition de M. Chisman, boulanger, full priced entre guillemets. Fin de la note de bas de page. La falsification du pain et la formation d'une classe de boulangers vendant au-dessous du prix normal datent en Angleterre du commencement du XVIIIe siècle. Elles se développèrent dès que le métier perdit son caractère corporatif et que le capitaliste, sous la forme de meunier, fit du maître boulanger son homme Elige. Note de bas de page. George Read, Loxit. À la fin du XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, on dénonçait officiellement comme une peste publique les agents ou hommes d'affaires qui se faufilent dans toutes les branches d'industrie. C'est ainsi, par exemple, que dans la session trimestrielle des juges de paix du comté de Somerset, le grand jury adressa à la Chambre des communes un « presentment » entre guillemets, dans lequel il est dit, entre autres, « ces agents, ouvrez la parenthèse, les facteurs de Blackwell Hall, fermez la parenthèse, sont une calamité publique et portent préjudice au commerce des draps et vêtements. On devrait les réprimer comme une peste, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, The Case of Our English Wall, etc. London, 1885, page 67, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, la falsification du pain et la formation d'une classe de boulangers vendant au-dessous du prix normal datent en Angleterre du commencement du XVIIIe siècle. Elles se développèrent dès que le métier perdit son caractère corporatif et que le capitaliste, sous la forme de meunier, fit du maître boulanger son homme liege. Ainsi fut consolidée la base de la production capitaliste et de la prolongation outre mesure du travail de jour et de nuit, bien que ce dernier, même à Londres, n'ait réellement pris pied qu'en 1824. Note de bas de page, First Report, etc., page 8 en chiffres romains, fin de la note de bas de page. On comprend, d'après ce qui précède, que les garçons boulangers soient classés, dans le rapport de la commission, parmi les ouvriers dont la vie est courte et qui, après avoir, par miracle, échappé à la décimation ordinaire des enfants dans toutes les couches de la classe ouvrière, atteignent rarement l'âge de 42 ans. Néanmoins, leur métier regorge toujours de postulants. Les sources d'approvisionnement de, ouvrez les guillemets, ces forces de travail, fermez les guillemets, pour Londres, sont l'Écosse, les districts agricoles de l'ouest de l'Angleterre et l'Allemagne. Dans les années 1858-60, les garçons boulangers, en Irlande, organisèrent à leurs frais de grands meetings pour protester contre le travail de nuit et le travail du dimanche. Le public, conformément à la nature aisément inflammable de l'Irlandais, prit vivement parti pour eux en toute occasion, par exemple au meeting de mai à Dublin. Par suite de ce mouvement, le travail de jour exclusif fut établi en fait à Wexford, Kilkenny, Clonmel, Waterford, etc. À Limerick, où, de l'aveu général, les souffrances des ouvriers dépassaient toute mesure, le mouvement échoua contre l'opposition des maîtres boulangers et surtout des boulangers meuniers. L'exemple de Limerick réagit sur Ennis et Tipperary. À Cork, où l'hostilité du public se manifesta de la manière la plus vive, les maîtres firent échouer le mouvement en renvoyant leurs ouvriers. À Dublin, ils opposèrent la plus opiniâtre résistance et, en poursuivant les principaux meneurs de l'agitation, forcèrent le reste à céder et à se soumettre au travail de nuit et au travail du dimanche. Note de bas de page. Report of Committee of the Baking Trade in Ireland for 1861. Fin de la note de bas de page. La commission du gouvernement anglais qui, en Irlande, est armée jusqu'aux dents, prodigua de piteuses remontrances aux impitoyables maîtres boulangers de Dublin, Limerick, Cork, etc. ouvrez les guillemets. Comme notre fileur converti pendant le travail sont limités par des lois naturelles qui ne peuvent être violées impunément. Les maîtres, en forçant leurs ouvriers par la menace de les chasser, à blesser leurs sentiments religieux, à désobéir à la loi du pays et à mépriser l'opinion publique, ouvrez la parenthèse, tout ceci se rapporte au travail du dimanche, fermez la parenthèse, les maîtres sèment la haine entre le capital et le travail et donnent un exemple dangereux pour la religion, la moralité et l'ordre public. Trois petits points. Le comité croit que la prolongation du travail au-delà de 12 heures est une véritable usurpation, un empiètement sur la vie privée et domestique du travailleur, qui aboutit à des résultats moraux désastreux. Elle l'empêche de remplir ses devoirs de famille comme fils, frère, époux et père. Un travail de plus de 12 heures tend à miner la santé de l'ouvrier, il amène pour lui la vieillesse et la mort prématurée, et par suite, le malheur de sa famille, qui se trouve privée des soins et de l'appui de son chef au moment même où elle en a le plus besoin. Fermez les guillemets. Note de bas de page, l'occite, fin de la note de bas de page. Quittons maintenant l'Irlande. De l'autre côté du canal, en Écosse, le travailleur des champs, l'homme de la charrue, dénonce ses 13 et 14 heures de travail dans un climat des plus rudes, avec un travail additionnel de 4 heures pour le dimanche, ouvrez la parenthèse, dans ce pays des sanctificateurs du sabbat, fermez la parenthèse, note de bas de page. Meeting public des travailleurs agricoles à Lasswade, près de Glasgow, du 5 janvier 1866. Ouvrez la parenthèse, voyez Workman's Advocate du 13 janvier 1866, fermez la parenthèse. La formation depuis la fin de 1865 d'une trade union parmi les travailleurs agricoles, d'abord en Écosse, est un véritable événement historique. Fin de la note de bas de page. Donc, de l'autre côté du canal, en Écosse, le travailleur des champs, l'homme de la charrue, dénonce ses 13 et 14 heures de travail dans un climat des plus rudes, avec un travail additionnel de 4 heures pour le dimanche, ouvrez la parenthèse, dans ce pays des sanctificateurs du sabbat, fermez la parenthèse, au moment même où, devant un grand jury de Londres, sont traînés 3 ouvriers de chemin de fer, un simple employé, un conducteur de locomotive et un faiseur de signaux. Une catastrophe sur la voie ferrée a expédié dans l'autre monde une centaine de voyageurs. La négligence des ouvriers est accusée d'être la cause de ce malheur. Ils déclarent tous d'une seule voix devant les jurés que 10 ou 12 ans auparavant, leur travail ne durait que 8 heures par jour. Pendant les 5 et 6 dernières années, on l'a fait monter à 14, 18 et 20 heures, et dans certains moments de presse pour les amateurs de voyage, dans la période des trains de plaisir, etc., il n'est pas rare qu'il dure de 40 à 50 heures. Ils sont des hommes ordinaires et non des argus. À un moment donné, leur force de travail refuse son service. La torpeur les saisit. Leur cerveau cesse de penser et leur œil de voir. Le respectable jury anglais leur répond par un verdict qui les renvoie pour « manslaughter », entre guillemets, ouvrez la parenthèse, « homicide involontaire », fermez la parenthèse, devant les prochaines assises. Cependant, il exprime dans un appendice charitable le pieux désir que messieurs les capitalistes, ces magnats des chemins de fer, voudront bien, à l'avenir, montrer plus de prodigalité dans l'achat d'un nombre suffisant de forces de travail entre guillemets et moins d'abnégation entre guillemets dans l'épuisement des forces payées. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Reynolds Newspaper, fermez les guillemets, du 20 janvier 1866. Chaque semaine, ce même journal publie avec des titres à sensation, ouvrez la parenthèse, sensational headings, fermez la parenthèse, tels que ceux-ci, ouvrez les guillemets, fearful and fatal accidents, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, appalling tragedies, fermez les guillemets, etc. Toute une liste de nouvelles catastrophes de chemin de fer. Un ouvrier de la ligne de North Stafford fait à ce propos les observations suivantes. Ouvrez les guillemets. Chacun sait ce qui arrive quand l'attention du mécanicien et du chauffeur faiblit un instant. Et comment pourrait-il en être autrement, étant donné la prolongation démesurée du travail sans une pause ou un moment de répit? Prenons pour exemple de ce qui arrive tous les jours un cas qui vient de se passer. Lundi dernier, un chauffeur se mit à son travail le matin de très bonne heure. Il le termina après 14h50. Avant qu'il eût le temps de prendre seulement son thé, il fut de nouveau appelé au travail et il lui fallut ainsi trimer 29h15 sans interruption. Le reste de son travail de la semaine se distribuait comme suit. Mercredi, 15h. Jeudi, 15h35. Vendredi, 14h30. Samedi, 14h10. Total pour toute la semaine, 88h40. Et maintenant, figurez-vous son étonnement lorsqu'il reçut une paye de 6 jours seulement. Notre homme était novice. Il demanda ce qu'on entendait par ouvrage d'une journée. Réponse, 13 heures. Et conséquemment, 78 heures par semaine. Mais alors, où est la paye des 10h40 supplémentaires? Après de longues contestations, il obtint une indemnité de 10 pence, 1 franc entre parenthèses, fermez les guillemets. Numéro du 10 février 1866. Fin de la note de bas de page. Donc, le respectable jury anglais leur répond par un verdict qui les renvoie pour « manslaughter » entre guillemets, ouvrez la parenthèse « homicide involontaire » entre guillemets, devant les prochaines assises. Cependant, il exprime dans un appendice charitable le pieux désir que messieurs les capitalistes, ces magnats des chemins de fer, voudront bien à l'avenir montrer plus de prodigalité dans l'achat d'un nombre suffisant de « forces de travail » entre guillemets et moins d'abnégation entre guillemets dans l'épuisement des forces payées. Dans la foule bigarrée des travailleurs de toute profession, de tout âge et de tout sexe, qui se pressent devant nous plus nombreux que les âmes des morts devant Ulysse aux enfers, et sur lesquels, sans ouvrir les livres bleus qu'ils portent sous le bras, on reconnaît au premier coup d'œil l'empreinte du travail excessif, saisissons encore au passage deux figures dont le contraste frappant prouve que, devant le capital, tous les hommes sont égaux. Une modiste et un forgeron. Dans les dernières semaines de juin 1863, tous les journaux de Londres publiaient un article avec ce titre à sensation, ouvrez les guillemets, Death from simple overwork, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Mort par simple excès de travail, fermez la parenthèse. Il s'agissait de la mort de la modiste Mary Anne Walkley, âgée de 20 ans, employée dans un très respectable atelier qu'exploitait une dame portant le doux nom d'Élise, fournisseuse de la cour. C'était la vieille histoire si souvent raconté. Note de bas de page. Comp. Friedrich Engels, Locksit, page 253-254, fin de la note de bas de page. Il était bien vrai que les jeunes ouvrières ne travaillaient en moyenne que 16h30 par jour et pendant la saison, seulement 30 heures de suite sans relâche. Il était vrai aussi que pour ranimer leurs forces de travail défaillantes, on leur accordait quelques verres de sherry, de porto ou de café. Or, on était en pleine saison. Il s'agissait de bâtir en un clin d'œil des toilettes pour de nobles ladies allant au bal donné en l'honneur de la princesse de Galles, fraîchement importée. Mary Ann Walkley avait travaillé 26h30 sans interruption avec 60 autres jeunes filles. Il faut dire que ces jeunes filles se trouvaient 30 dans une chambre contenant à peine un tiers de la masse cubique d'air nécessaire et la nuit dormaient à deux dans un taudis où chaque chambre à coucher était faite à l'aide de diverses cloisons en planches. Note de bas de page. Dr. Leatherby, médecin employé au Board of Health, déclarait alors, trois petits points, ouvrez les guillemets. Le minimum d'air nécessaire à un adulte dans une chambre à coucher est de 30 pieds cubes et dans une chambre d'habitation de 500, fermez les guillemets. Dr. Richardson, médecin en chef d'un hôpital de Londres, dit, ouvrez les guillemets. Les couturières de toute espèce, modistes, tailleuses en robe, etc., sont frappées par trois fléaux. Excès de travail, manque d'air et manque de nourriture ou manque de digestion. En général, ce genre de travail convient mieux en toutes circonstances aux femmes qu'aux hommes. Mais le malheur pour le métier, surtout à Londres, c'est qu'il a été monopolisé par 26 capitalistes qui, par des moyens coercitifs résultant du capital même, ouvrez les guillemets, that spring from capital, fermez les guillemets, économise la dépense en prodiguant la force de travail. Cette puissance se fait sentir dans toutes les branches de la couture. Une tailleuse en robe, par exemple, parvient-elle à se faire un petit cercle de pratique ? La concurrence la force de travailler à mort pour le conserver et d'accabler de travail ses ouvrières. Si ses affaires ne vont pas, ou qu'elle ne puisse s'établir d'une manière indépendante, elle s'adresse à un établissement où le travail n'est pas moindre, mais le paiement plus sûr. Dans ces conditions, elle devient une pure esclave, ballottée çà et là par chaque fluctuation de la société, tantôt chez elle, dans une petite chambre et mourant de faim, ou peu s'en faut, tantôt dans un atelier, occupée 15, 16 et 18 heures sur 24, dans une atmosphère à peine supportable et avec une nourriture qui, fût-elle bonne, ne peut être digérée faute d'air pur. Telles sont les victimes offertes chaque jour à la phtisie et qui perpétuent son règne. Car cette maladie n'a pas d'autre origine que l'air vicié. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Dr. Richardson, ouvrez les guillemets. Death from simple overwork, fermez les guillemets, dans la, ouvrez les guillemets, Social Science Review, fermez les guillemets, juillet 1863, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, il faut dire que ces jeunes filles se trouvaient 30 dans une chambre contenant à peine un tiers de la masse cubique d'air nécessaire. Et la nuit, dormait à deux dans un taudis où chaque chambre à coucher était faite à l'aide de diverses cloisons en planches. Et c'était là un des meilleurs ateliers de mode. Mary Ann Walkley tomba malade le vendredi et mourut le dimanche sans avoir, au grand étonnement de Dame Élise, donner à son ouvrage le dernier point d'aiguille. Le médecin, appelé trop tard au lit de mort, Mr. Keys, déclara tout net devant le coroner's jury que Marie-Anne Walkley était morte par suite de longues heures de travail dans un local d'atelier trop plein et dans une chambre à coucher trop étroite et sans ventilation. Le coroner's jury, entre guillemets, pour donner au médecin une leçon de savoir-vivre, déclara au contraire que la défunte était morte d'apoplexie, mais qu'il y avait lieu de craindre que sa mort n'eût été accélérée par un excès de travail dans un atelier trop plein, etc. Ouvrez les guillemets. Nos esclaves blancs, s'écria le Morning Star, l'organe des libres échangistes Gobden et Pryde. Nos esclaves blancs sont les victimes du travail qui les conduit au tombeau. Ils s'épuisent et meurent, sans tambour ni trompette. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Morning Star, 23 juin 1863. Le Times profita de la circonstance pour défendre les esclavagistes américains contre Bright and Sea. Ouvrez les guillemets. Beaucoup d'entre nous, dit-il, sont d'avis que tant que nous ferons travailler à mort nos jeunes femmes, en employant l'aiguillon de la faim au lieu du claquement du fouet, nous aurons à peine le droit d'invoquer le fer et le feu contre des familles qui sont nées esclavagistes et nourrissent du moins bien leurs esclaves et les font travailler modérément. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Times, 2 juillet 1863, fermez la parenthèse. Le Standard, journal Tory, sermonna de la même manière le rêve, révérend entre crochets, Newman Hall. Ouvrez les guillemets. Vous excommuniez, lui dit-il, les possesseurs d'esclaves. Mais vous priez avec les braves gens qui, sans remords, font travailler 16 heures par jour et pour un salaire dont un chien ne voudrait pas, les cochers et les conducteurs d'omnibus de Londres. Fermez les guillemets. Enfin, parla la sibylle de Chelsea, Thomas Carlyle, l'inventeur du culte des génies, ouvrez la parenthèse, Hero Worship, fermez la parenthèse, à propos duquel j'écrivais déjà en 1850, ouvrez les guillemets, le génie s'en est allé au diable, mais le culte est resté, fermez les guillemets. Dans une piètre parabole, il réduit le seul grand événement de l'époque actuelle, la guerre civile américaine, à ce simple fait, Pierre du Nord veut à toute force casser la tête à Paul du Sud, parce que Pierre du Nord loue son travailleur quotidiennement, tandis que Paul du Sud le loue pour la vie. Ouvrez la parenthèse, Macmillan's Magazine, Ilias Americana et Noce, ouvrez la parenthèse, livraison d'août 1863, fermez la parenthèse. Enfin, les Tories ont dit le dernier mot de leur philanthropie, esclavage. Fin de la note de bas de page. Donc, ouvrez les guillemets. Nos esclaves blancs, s'écria le Morning Star, l'organe des libres échangistes Cobden et Pryde. Nos esclaves blancs sont les victimes du travail qui les conduit au tombeau. Ils s'épuisent et meurent sans tambour ni trompette. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Travailler à mort. Tel est l'ordre du jour, non seulement dans le magasin des modistes, mais encore dans n'importe quel métier. Prenons pour exemple le forgeron. Si l'on en croit les poètes, il n'y a pas d'homme plus robuste, plus débordant de vie et de gaieté que le forgeron. Il se lève de bon matin et fait jaillir des étincelles avant le soleil. Il mange et boit et dort comme pas un. Au point de vue physique, il se trouve en fait, si son travail est modéré, dans une des meilleures conditions humaines. mais suivons-le à la ville et examinons quel poids de travail est chargé sur cet homme fort et quel rang il occupe sur la liste de mortalité de notre pays. À Marybone, ouvre la parenthèse, un des plus grands quartiers de Londres, fermez la parenthèse, les forgerons meurent dans la proportion de 31 sur 1000 annuellement, chiffre qui dépasse de 11 la moyenne de mortalité des adultes en Angleterre. Cette occupation, un art presque instinctif de l'humanité, devient, par la simple exagération du travail, destructive de l'homme. Il peut frapper par jour tant de coups de marteau, faire tant de pas, respirer tant de fois, exécuter tant de travail et vivre en moyenne 50 ans. On le force à frapper tant de coups de plus, à faire un si grand nombre de pas en plus, à respirer tant de fois davantage, et le tout pris ensemble à augmenter d'un quart sa dépense de vie quotidienne. Il laissait quel en est le résultat, c'est que pour une période limitée, il accomplit un quart de plus de travail et meurt à 37 ans au lieu de 50. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Dr. Richardson, Loxit, fin de la note de bas de page.